France Inter.
Aujourd'hui, atrocité climatique, un nouveau mot pour un monde qui bascule, raconté par...
Gaspard Lemaire, doctorant à l'Université d'Angers et enseignant en éthique à l'Institut catholique de Paris.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il existe des mots que l'on entend tellement qu'ils semblent glisser sur nous sans plus rien provoquer. On parle de changement climatique, de réchauffement, parfois même de crise climatique, des mots installés dans le débat public au point de devenir presque inaudibles. Ils semblent pratiques, presque neutres, mais ils n'approchent plus la réalité. Ils ne disent rien de l'ampleur des destructions déjà en cours, ni de la violence lente mais massive qui s'abat sur des sociétés entières. Depuis plusieurs années, chercheurs et juristes observent un décalage entre ces mots et ce qui est réellement en train d'advenir, une transformation du climat qui tue déjà, qui déplacera des millions de personnes, qui bouleverse la culture, l'économie, l'habitabilité même de régions entières. Selon les projections scientifiques, jusqu'à 9 millions de vies pourraient être perdues chaque année d'ici la fin du siècle dans un scénario d'émissions élevées. Plus de 3 milliards d'humains sont d'ores et déjà vulnérables. Cette réalité ne relève pas d'une simple crise, elle engage les fondements même de la vie humaine et non humaine sur notre planète. Face à une destruction aussi vaste et globale, certains travaux proposent donc de forger un nouveau mot, celui d'atrocité climatique. Le terme peut sembler radical, il désigne pourtant un phénomène documenté, une violence à grande échelle produite de manière systématique, parfaitement connue depuis des décennies et qui frappe des populations civiles partout dans le monde. Une violence dont les effets se cumulent, s'étendent sur des temps géologiques, touchent les infrastructures, la santé, les cultures, les écosystèmes, jusqu'à rendre certains territoires presque inhabitable. Ce nouveau terme pourrait permettre, pour ceux qui le défendent, de devenir une boussole morale, relier les faits et de poser la question centrale de la responsabilité, celle des États et des grandes entreprises, dont les émissions cumulées de gaz à effet de serre dépassent largement les seuils compatibles pour l'habitabilité de notre planète. C'est l'histoire de ce concept d'atrocité climatique que nous allons vous raconter aujourd'hui.
Nous devons traiter les problèmes des catastrophes climatiques à la racine, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement rapide de la planète. Tous les pays doivent présenter de nouveaux plans nationaux d'action climatique, des plans ambitieux et conformes à l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius.
Bonjour Gaspard Lemaire.
Bonjour.
À l'instant, la voix d'Antonio Guterres, le chef de l'ONU, c'était le 23 octobre dernier. Depuis des années, des mots, donc, je le disais, comme changement climatique, réchauffement ou crise climatique sont entrés dans le débat public. Ils circulent partout dans les médias. Pourquoi est-ce que vous estimez que ce vocabulaire aujourd'hui n'est plus du tout à la hauteur de la violence réelle des destructions en cours ?
Eh bien, on a effectivement affaire à des phénomènes qui sont infiniment destructeurs, qui vont toucher un nombre immense de vies humaines, qui vont provoquer des souffrances, provoquer des décès. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend le terme le plus usuel, changement climatique, il est tout à fait précis sur le plan scientifique. C'est-à-dire que le climat est en train de changer, c'est indéniable. Mais c'est un terme qui est neutre sur le plan des valeurs. Il ne dit pas les souffrances, il ne dit pas la responsabilité des institutions qui provoquent ces souffrances. Donc ça, c'est un terme qui est purement descriptif. Cette réflexion sur le langage, elle est en cours. Il y a de nouveaux termes qui sont en train d'émerger. Quand on parle de dérèglement climatique, déjà, on dit « Ah bah, c'est en train d'aller un petit peu moins bien ». Donc, il y a déjà une dimension de normativité, mais elle reste assez faible. Mon frigo, ici, il peut se dérégler. Bon, bah, c'est pas un immense problème. Alors, il y a d'autres termes encore plus forts. L'urgence climatique, la crise climatique, qui vise à souligner qu'il faut agir maintenant, que c'est très important, voilà, d'engager des politiques publiques dans l'immédiat pour faire face à cette violence climatique, pour la prévenir autant que possible. Toute la difficulté, c'est que ce soit une urgence ou une crise, on parle de phénomènes qui sont temporaires. Une urgence, ça ne s'étale pas sur des décennies. Une crise, c'est un moment spécifique de disjonction, de séparation, on passe à un nouvel état, et ensuite c'est fini. Alors que les dommages climatiques, ils vont perdurer pendant des décennies, pendant des siècles, voire pour la hausse du niveau des océans, pendant des millénaires. Donc on ne peut pas parler de crise dans ces cas-là. Parfois on entend « il nous reste 1000 jours pour agir », etc. C'est très bien de souligner l'importance d'agir maintenant, mais il faut aussi penser le temps long de la violence climatique.
Et alors vous, Gaspard Lemaire, dans le contexte de votre travail, hein, de doctorant en sciences politiques, comment vous avez commencé à travailler, à réfléchir et à donc faire émerger ce terme que vous défendez, hein, c'est une création, on pourrait dire, de atrocité climatique. Comment dans votre parcours, en fait, c'est arrivé exactement ?
Alors je suis tombé sur le climat un petit peu par hasard peut-être. J'étais étudiant en philosophie à l'époque, j'avais aussi fait des études d'économie et j'avais été invité à rédiger un essai dans le cadre d'un événement qui était les rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur le thème suivant, résister aujourd'hui pour inventer demain. C'était quelque chose de très flou, très général, je me suis demandé...
Très slogan publicitaire,
quasiment. Tout à fait. Hein, ouais. C'est l'idée aussi des rencontres économiques, ces formules un petit peu générales. Ouais. Mais c'est un événement qui est très intéressant, au demeurant. Et donc, je me suis demandé, mais à quoi est-ce qu'il faudrait résister aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui se passe? On était au tournant, sans doute, en 2019, tournant des années 2020. Donc, on avait assisté à l'émergence de l'accord de Paris. Greta Thunberg était passée par là. Mm-hmm. On parlait du climat dans les médias. Je me suis dit, ça peut être pas mal de parler de climat. Deux mois après ça, je prends l'avion et je pars en vacances en Sicile. J'avais écrit cet essai sur le climat. Et là, je me dis... Mais alors, l'avion, c'est des gaz à effet de serre, c'est combien au juste? Et j'ai regardé les émissions liées à mon trajet, et c'était en centaines de kilos, voire en tonnes de CO2. Et là, je me dis, mais j'ai jamais réfléchi à ça. Les savoirs, ils sont là depuis quand même très longtemps. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et comment penser ce qui est en train d'arriver, en fait? Comment mettre fin à cette espèce d'angle mort qui fait qu'en tant que citoyen, avec une éducation supérieure et tout ça, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête? Là, j'ai commencé à creuser le sujet et j'étais pas tout à fait satisfait par le lexique que j'ai pu trouver pour décrire en fait la réalité.
Et donc, vous êtes dit, c'est par les mots en fait que les choses vont pouvoir changer ?
Je sais pas si je me suis dit que c'est d'abord par les mots que les choses vont pouvoir changer. Je me suis plutôt dit, parce que j'avais cette approche un petit peu philosophique, on n'a pas les mots pour dire ce qui se passe. Le langage, là, c'est pas adéquat, ça ne colle pas avec la réalité. On a un phénomène historique complètement nouveau qui est en train d'émerger. Un dérèglement climatique d'origine humaine, c'est jamais arrivé dans notre histoire. Le climat a changé, mais sur des temps très longs, et c'était pas de notre faute. Et donc, voilà, j'avais simplement l'impression d'un décalage entre la réalité et les concepts dont on disposait, la production de sens qu'on pouvait mobiliser. L'idée n'était pas du tout de changer le monde, mais simplement de le comprendre.
Et donc ce terme d'atrocité climatique, il est arrivé comment alors dans votre cheminement de pensée précisément ?
Il est arrivé assez laborieusement. Dans un premier temps, j'ai cherché des modèles dans la tradition de pensée qui est la nôtre. Très rapidement, je suis tombé sur le concept de génocide, le concept de crime contre l'humanité, qui visait aussi à dire des violences extrêmes. Mais ça ne convenait pas tout à fait. Et donc, je me suis dit, il faut inventer un nouveau terme. Je suis d'abord parti sur celui de anthropocide, sur le modèle du génocide qui était vraiment ma principale source d'inspiration. Anthropos, c'est l'être humain, kaedere, ça veut dire tuer. Et voilà, il y avait cette idée que c'est une grande partie des êtres humains, peut-être pas tous, mais qui vont être affectés de façon très sévère par les destructions climatiques. Seulement, anthropocide, c'est très abstrait, ça correspond pas à grand-chose et ça parle pas de climat. J'ai ensuite découvert le terme d'atrocité de masse. Et c'est venu assez naturellement, en fait. Une atrocité de masse, le climat, une atrocité climatique.
Alors, il y avait justement la notion d'écocide qui existait déjà dans certains cadres juridiques. Ça ne suffisait pas pour vous pour décrire ce qui était en train de se produire sur le vivant, dont font partie d'ailleurs les humains, évidemment.
L'écocide, de manière très générale, on peut le définir comme la destruction ou la dégradation d'un écosystème. Il y a une définition un petit peu plus précise qui a été proposée par un panel d'experts en 2021. Voilà, il faut que ce soit accompli en connaissance de cause, il faut que ce soit arbitraire ou illégal, que les dommages soient sévères, de grande étendue ou durables. Mais avec l'écocide, on parle principalement d'écosystèmes. Et les destructions climatiques, elles touchent évidemment de façon tout à fait significative les écosystèmes, mais elles touchent aussi de façon très directe les êtres humains. En ce moment, là, il y a une tempête qui est en train de s'abattre sur le Sri Lanka, sur l'ensemble de l'Asie.
L'Asie du Sud-Est, oui.
Tout à fait. Ce ne sont pas des écosystèmes seulement qui sont détruits, ce sont des logements, ce sont des hôpitaux, ce sont des routes, ce sont des individus qui meurent noyés. Ce n'est pas une question d'écosystème. Quand on a une vague de chaleur en Europe qui fait 60 000 morts en 2023, ce n'est pas une question d'écosystème. Encore une fois, c'est des êtres humains qui sont tués de façon directe. Quand la montée des eaux menace de faire disparaître des États entiers, dans un horizon qui est certes pas immédiat, mais qui, c'est quelque chose qui semble inéluctable, c'est pas seulement une question d'écosystème.
Mais est-ce que c'est pas une façon aussi, et ça peut être une critique d'ailleurs de ce que vous dites, de remettre encore finalement l'humain sur le devant, alors que beaucoup de philosophes d'ailleurs aussi aujourd'hui essaient de replacer simplement l'humain dans l'ensemble du vivant et pas seulement comme étant au centre du monde, hein.
Ça va être quelque chose de très important pour le XXIe siècle, d'arriver à dépasser l'anthropocentrisme dont on est les héritiers aujourd'hui. Voilà, il y a les écosystèmes, il y a aussi tous ces animaux qui sont torturés dans
des élevages. Ouais,
voilà, dans des élevages. On parle de centaines de milliards d'animaux chaque année quand même qui vivent dans des conditions épouvantables. Ça, il est urgent de le penser aussi. C'est indéniable. Dans le même temps, les phénomènes climatiques en cours, bah comme je le disais, ils affectent aussi l'être humain. Et penser l'humain n'empêche pas de penser simultanément nos obligations vis-à-vis des animaux. Et d'ailleurs, le but du concept d'atrocité climatique, c'est d'englober les deux. C'est de rendre compte des destructions infligées à la fois aux êtres humains et aux animaux. Parce que les mécanismes climatiques qui tuent le vivant, bah c'est pas les mêmes que les mécanismes qui résultent d'une pollution ou de l'étalement urbain. Il faut penser leur singularité aussi.
Gaspard Lemaire, vous évoquez un seuil symbolique, c'est celui du dépassement des 1,5 degré. On y est quasiment, on est au seuil en tout cas de ce dépassement. La France l'a déjà d'ailleurs dépassé. Pourquoi ce point de bascule à l'échelle de la planète permettrait, selon vous, justement de commencer, pourquoi pas, à imposer ce terme d'atrocité climatique ?
Bah c'est vrai que si on parle d'atrocité climatique, il faut se demander à quel moment elle commence. Il faut être précis, en fait, sur le plan temporel. On a des critères de démarcation pour les autres atrocités, il en faut une ici aussi. Toute la difficulté, c'est que les dommages climatiques, ils sont continus, ils augmentent de façon incrémentale, avec chaque dixième de degré, ils s'accroissent, sans qu'il y ait une bascule apparente. Néanmoins, aujourd'hui, les connaissances scientifiques, tout de même, indiquent que ce seuil de 1,5 degré, il a une signification qui n'est pas arbitraire. Il y a eu un rapport spécial du GIEC consacré spécifiquement à ce seuil, qui montre deux choses principalement. En fait, au-delà de 1,5 degré, les dommages vont s'accroître de façon exponentielle. Ils ne vont pas tout à fait changer de nature, mais on va quand même basculer vers ce que Bruno Latour appelait un nouveau régime climatique. On va quand même changer de monde. Ça se fait petit à petit, mais 1,5 degré, ça implique des changements pour les coraux, par exemple, qui vont se mettre à tous disparaître. Les coraux, les récifs coralliens qui abritent énormément d'êtres vivants dans les océans, vont disparaître au-delà de 1,5 degré. C'est un point de bascule. Deuxièmement, ce seuil, il implique un risque d'emballement climatique très élevé. Quand on dépasse 1,5 degré, la mise en place de ce qu'on appelle en sciences du climat des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des phénomènes qui s'alimentent les uns les autres, une forêt qui se met à brûler, qui libère du CO2, qui fait fondre de la glace, qui va faire monter le niveau des océans, qui va engloutir peut-être des marécages qui absorbaient aussi du CO2, et une boucle comme ça qui s'alimente, ces risques-là, ils sont démultipliés au-delà de 1,5 degré. Donc il y a une légitimité scientifique, et il y a aussi une autre légitimité qui est géopolitique. Les États ont reconnu l'existence de ce seuil comme étant extrêmement important. Dans le cadre de l'accord de Paris, on doit essayer de limiter autant que possible le réchauffement pour éviter de dépasser ce seuil. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice, qui est l'organe juridique principal des Nations Unies, a indiqué dans une opinion récente que ce seuil était contraignant pour les États. Donc c'est un seuil qui n'est pas arbitraire aujourd'hui.
Donc ce serait un point de départ, en tout cas pour vous, une sorte de boussole pour pouvoir imposer ce terme, c'est ça ?
Voilà, en fait la question c'est à quel moment on passe de cet ensemble de violences climatiques qui adviennent sur la totalité du globe à un phénomène qui relève à proprement parler de l'atrocité climatique. Il faut un critère de démarcation, et le meilleur dont on dispose, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est celui de 1,5 degré pour toutes les raisons que je viens d'exposer.
On verra comment, dans un instant, cet terme d'atrocité climatique pourrait changer la manière dont la société elle-même perçoit aussi, peut-être, le dérèglement climatique, ou même les industriels ou les politiques. Ce sera le sujet de notre discussion. Et puis vous répondrez, Gaspard Lemaire, aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Tant qu'on continuera à regarder cette question climatique à travers la morale, on s'en sortira pas, parce que c'est pas un problème de morale, c'est un problème politique. Quand on parle des populations les plus démunies, en réalité, d'abord, c'est elles qui sont le plus victimes du changement climatique, aujourd'hui. Deuxièmement, on a tendance à regarder les émissions à partir des territoires. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des différentiels énormes d'émissions. Et en réalité, on est en train de demander aux plus pauvres de faire cet effort. Et là, il y a quelque chose qui devient absolument insupportable, c'est la fameuse injustice climatique dans le rapport Nord-Sud, qu'on va retrouver à peu près partout, à toutes les échelles territoriales qu'on retrouve aujourd'hui en Europe et qu'on va retrouver en fait au niveau des COP.
La voix de la géographe Magali Regezza-Zitz était au micro de France Culture en octobre dernier. Gaspard Lemaire, vous êtes notre invité, enseignant en éthique, et vous avez mené tout un travail de réflexion autour d'un terme, celui d'atrocité climatique, que vous défendez pour parler de la violence qui est à l'œuvre autour du climat. Cet autre terme là, prononcé par Magali Regezza, d'injustice climatique, qui revient aussi beaucoup dans les paroles écologistes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là encore, vous le trouvez très en deçà de ce qu'il devrait exprimer sur la réalité de la situation?
C'est un terme qui est très important tout de même, parce qu'il a permis de commencer à introduire une forme de normativité, une forme de réflexion sur les obligations des uns et des autres dans le débat climatique. Donc c'est un terme dont la contribution doit être reconnue. Il y a une injustice effectivement, au sens où celles et ceux qui ont le moins contribué au dérèglement du climat en seront les premières victimes demain. Les États les plus vulnérables, c'est souvent les États les plus pauvres sur le plan économique, et donc souvent aussi ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Ils n'ont pas les moyens pour s'adapter, parfois ils sont sur des territoires plus vulnérables aussi. Et en ce sens, il y a bien une injustice. Il y a une injustice en deux sens. Il y a d'une part des inégalités, et on parle souvent d'injustice, voilà, quand les biens ne sont pas distribués de la manière la plus équitable qui puisse être envisagée. Et il y a une injustice en un deuxième sens, au sens d'une violation de droits. Les droits des habitants de ces États ne sont pas respectés par les institutions responsables des émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, il me semble qu'on ne peut pas s'en tenir à l'injustice, au cadre de l'injustice. Il faut la caractériser, cette injustice. De quelle injustice on parle? Des injustices, il y en a de toutes sortes. Et si quelqu'un prend trois parts de pizza et que j'en ai qu'une, c'est une injustice aussi. Voilà, ça peut être plus ou moins grave. Et on peut dire qu'il y a une injustice. Et cette injustice, en l'occurrence, elle prend la forme d'une atrocité de masse.
La question du climat, c'est pas un problème de morale, mais un problème politique, disait également Magali Regezza. Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis d'accord avec le fait que la question du climat est un problème politique. C'est un problème qui engage des rapports de force entre des États, entre des entreprises et des citoyens. Ça, c'est indéniable. Il ne me semble pas indispensable d'opposer de façon binaire la politique et la morale. Les deux sont systématiquement imbriqués, puisque les systèmes de valeurs politiques dépendent toujours, en dernière instance, ou sont du moins liés à des réflexions d'ordre moral. Si on regarde nos débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a toujours des systèmes de valeurs qui sont embarqués dans les discussions, et ces systèmes de valeurs, ils relèvent bien aussi de la morale. On peut jamais penser les deux séparément.
Le fait pour vous, Gaspard Lemaire, de vouloir promouvoir, parce qu'il s'agit de ça aussi, un nouveau terme comme celui d'atrocité climatique, est-ce que vous pensez que ça pourra changer la manière dont la société elle-même perçoit le dérèglement, le réchauffement climatique, on le dira comme on veut?
C'est effectivement l'un des buts de ce concept, c'est d'éclairer en fait quelque chose qui n'est pas donné dans l'expérience. D'un côté, on a des émissions de gaz à effet de serre qui résultent de formes d'organisation politique, de formes de production économique, etc. De l'autre, on a des destructions climatiques qui peuvent avoir lieu à l'autre bout du monde, et le lien, il n'est jamais donné dans l'expérience, on ne le voit pas, ce lien.
Pourtant, on le ressent quand même, le changement climatique, dans plein d'expériences très différentes sur le territoire. Le fait d'avoir de plus en plus chaud, de manquer d'eau dans certaines régions, de voir des crues, des inondations, des mouvements extrêmes. Enfin, quand même, c'est ressenti, c'est expérimenté quand même.
On le ressent en France, ce ressenti, il est infiniment en deçà de la réalité des destructions, pour une raison géographique. Tout simplement, on est sur un territoire donné. On ne fait pas l'expérience de ce qui se passe dans le monde entier au moment où les choses sont en train d'arriver, parce qu'on est des êtres humains. Donc on est incarné dans un petit endroit, un petit bout de caillou. Donc notre expérience, elle reste quand même très limitée sur le plan géographique, même si effectivement, on fait l'épreuve parfois de ces destructions climatiques, et c'est très important. Deuxièmement, on ne fait pas l'expérience des destructions à venir, ce qui représente en fait l'essentiel des dommages climatiques qui sont dans le futur. Donc à cet égard, il y a une difficulté. Et ce qui est intéressant avec le concept d'atrocité, c'est qu'il désigne à la fois les souffrances des victimes et les actions des responsables. Il permet de réunir les deux dans le langage. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec inaction climatique. Si on parle d'inaction climatique, on dit les États devraient en faire plus, mais là, on ne voit pas les victimes.
Donc ce terme, il peut servir aussi à désigner très clairement les responsables, par exemple, autour de l'augmentation des températures. Et évidemment, on pense tout de suite aux industriels très émetteurs de gaz à effet de serre. Ça pourrait servir à ça, selon vous ?
Effectivement, quand on parle d'atrocité, il y a toujours les personnes ou les institutions qui ont rendu possible ou qui ont réalisé en fait ces atrocités. Et en l'occurrence, c'est une question. Voilà, l'atrocité climatique, pour la définir, c'est l'ensemble des actes accomplis en connaissance de cause qui contribuent de façon significative à la déstabilisation du système climatique dont dépend le bien-être humain et la survie de la plupart des espèces. Bon, qu'est-ce que ça veut dire contribuer de façon significative à la déstabilisation du climat? C'est pas vous et moi, c'est pas les individus qui, par leur vie quotidienne, déstabilisent de façon significative le climat. Ce sont, d'une part, les entreprises, notamment les majors pétrolières. Voilà, il y a cette étude célèbre d'un petit groupe de 100 entreprises productrices d'énergie fossile qui sont responsables de plus de 70% des émissions mondiales. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, les responsables, ce sont les États. Il faut savoir aujourd'hui que les subventions accordées au secteur des énergies fossiles par les États, c'est 7000 milliards de dollars par an. C'est plus de deux fois le PIB de la France. Les États qui sont par ailleurs en mesure de légiférer, d'organiser le fonctionnement de la société, et qui donc ont une influence décisive sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Le concept d'atrocité climatique, il peut s'appliquer à ces entreprises et pas à tous les États, évidemment.
Alors, quand vous dites qu'il peut s'appliquer, c'est-à-dire ça peut être un outil juridique, on en reparlera, mais déjà, on peut commencer à en discuter, parce que c'est pas ce mot qui, tout d'un coup, va faire que Total va décider du jour au lendemain d'investir beaucoup plus massivement dans les énergies renouvelables plutôt que dans les énergies fossiles. Donc, c'est plutôt un outil qui pourrait servir, c'est un peu ça aussi, cette volonté de promouvoir ce terme ?
L'idée, c'est en fait, quelle est la signification de ce qu'accomplit Total aujourd'hui ou de ce qu'accomplit l'Amérique de Donald Trump aujourd'hui. Si on parle d'atrocité climatique, le débat va déjà commencer à changer de forme. Dans les débats internationaux, au COP aujourd'hui, on va parler d'injustice, on va parler de pertes et dommages, on va parler de fonds de compensation. Le concept d'atrocité, il va déplacer le débat, il va le réinscrire dans une tradition qui a plusieurs décennies derrière elle maintenant, la tradition des atrocités, du génocide, des procès de Nuremberg. Voilà, avec toutes ces tentatives à l'époque déjà de penser des formes émergentes de violence, le génocide, le concept avait été inventé en 1944, ça a changé les choses de parler de génocide. On n'a pas regardé les exactions nazies de la même manière après le concept de génocide. Churchill parlait en 1942 d'un crime sans nom. Deux ans plus tard, le juriste Raphaël Lemkin parle de génocide, le crime sans nom trouve un nom. Et ça change la nature des débats.
Sauf que ça n'empêche pas d'autres génocides, tout comme les écocides ont été, le terme en tout cas a été adopté. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que vis-à-vis du vivant, ce terme tout d'un coup a tout changé et que la situation pour tous les êtres vivants de la planète va beaucoup mieux ?
La situation des êtres vivants de la planète va beaucoup plus mal. On approche la sixième extinction de masse ou première extermination de masse du vivant, puisque c'est les humains qui en sont responsables.
Alors que même ce terme s'est imposé quand même.
Ce terme est en train de s'imposer. Il a été inventé dans les années 70, le concept d'écocide, et il réémerge dans le débat public autour de 2010, à la suite des fuites de pétrole Deepwater dans le golfe du Mexique. Il faut dire golfe d'Amérique maintenant pour ne pas fâcher Donald Trump.
On peut le fâcher en Europe, on a le droit.
Et donc ce terme d'écocide, il est très récent en fait. Voilà, le débat sur l'écocide 2010, il a quand même contribué à réorienter le regard d'une partie des sociétés les plus destructrices vers des phénomènes qui étaient complètement invisibles auparavant. On en parle maintenant, alors on continue à le faire, mais disons que ça devient une catégorie de pensée qui nous permet d'interroger ce qu'on est en train de faire. Alors qu'avant, la destruction du vivant, c'était pas un immense sujet. Maintenant, il y a un vrai débat social là-dessus. Le débat climatique, il existe aussi, mais il me semble qu'il pourrait changer de nature à partir du moment où on parle d'atrocité, on ne posera plus tout à fait peut-être les questions de la même manière.
On va écouter l'extrait de ce reportage de France 24 sur les chiffres liés justement au changement climatique.
Des températures extrêmes et de plus en plus meurtrières. Voilà le constat de la revue médicale The Lancet, qui a mesuré le lien entre réchauffement climatique et conséquences sur la santé. En moyenne, la chaleur a entraîné 546 000 morts par an entre 2012 et 2021. Selon les scientifiques, cette mortalité liée à la chaleur a grimpé de 23% par rapport aux années 90. Pour les scientifiques, la pollution de l'air, aggravée par l'activité humaine, reste aussi très meurtrière. En 2022, selon eux, rien que la combustion des énergies fossiles a entraîné la mort de 2,5 millions de personnes.
Voilà, cette étude dans The Lancet, on a beau parler de centaines de milliers, voire de millions de morts, Gaspard Lemaire, le déni est toujours là, la méconnaissance, et ça c'est absolument sidérant quand même finalement. Et on se demande en quoi un nouveau terme, c'est-à-dire aller toujours plus fort finalement dans les appellations, pourrait encore changer les choses.
Eh bien justement, c'est très intéressant parce que le concept d'atrocité, il a lui aussi une histoire, et les chercheurs qui s'intéressent aux atrocités qui ont eu lieu dans le passé, ont observé que le déni, c'était une constante. Quand une forme de violence extrême est infligée à des populations, eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible pour les bourreaux, c'est pas possible pour les personnes qui ont laissé ça arriver, de reconnaître la réalité. C'est trop lourd, moralement. Et donc, il y a toujours des mécanismes de déni. Voilà, on connaît le négationnisme dans le cas de la Shoah, mais en fait, c'est systématique. À chaque fois qu'il y a une atrocité, ce déni peut prendre plusieurs formes. Ça peut être nier les faits en eux-mêmes, nier leur signification, nier le caractère évitable des souffrances infligées. Et donc, le climat, le déni climatique, s'inscrit dans ce continuum. Il faut aussi quand même en saisir la spécificité, me semble-t-il. Ce déni climatique, il est pour partie alimenté par des entreprises. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. À ma connaissance, il n'y a pas d'atrocité dans le passé où le déni était vraiment promu activement par des entreprises qui paieraient des groupes de désinformation.
La fabrique du doute, elle est bien documentée depuis maintenant les années 60. Hein. Voilà, ça a commencé avec les cigarettiers quand même. Donc, il y a quand même quelques décennies d'expérience dans ce domaine.
Il y a une expérience dans ce domaine. Les techniques des marchands de doute sont connues. Mais les cigarettes, ce n'était pas une atrocité de masse. Vendre des cigarettes, voilà, il n'y a pas une violence systématique.
Bah, si on fait le lien sur la santé, si, on peut considérer quand même que les effets entre fumer des cigarettes et le nombre de morts, ça peut représenter
alors,
aussi
c'est un petit peu
une atrocité.
Parce qu'il y a des phénomènes d'addiction, etc. Mais une atrocité, la définition académique, c'est une violence systématique, de grande ampleur, infligée en connaissance de cause à des populations civiles. Ces populations civiles, elles ne peuvent pas éviter la violence. Dans le cas des cigarettes, on n'a quand même pas forcé les gens à fumer des cigarettes. Alors voilà, encore une fois, il y a des mécanismes d'addiction, mais ça correspond quand même pas tout à fait au phénomène.
On va voir dans un instant si ce concept pourrait changer politiquement et juridiquement les choses, s'il était accepté, parce que c'est encore une fois un concept, une idée que vous théorisez, Gaspard Lemaire, et on en discute avec les messages, les questions, il y a pas mal de réactions autour de ce concept d'atrocité climatique, et vous y répondrez dans un instant.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Depuis qu'il a commencé en 2011, Florent Seban observe une accélération des conséquences du dérèglement du climat. C'est la raison qui l'a poussé, aux côtés de 13 autres citoyens et associations, à attaquer l'État pour inaction climatique.
Aujourd'hui, l'État ne nous protège pas sur la question du changement climatique, alors que les lois européennes et françaises imposent à l'État de nous protéger. On demande à ce que l'État soit condamné et on espère que cette condamnation entraînera des vrais changements de politique publique.
Pour essayer de lutter à son échelle contre ces aléas climatiques, Florent Seban a planté des arbres à floraison tardive et repensé l'agencement de son verger. Mais il est convaincu qu'il faut un changement de modèle agricole à plus grande échelle.
Et c'était dans C'est dans l'air en juin dernier, reportage donc sur France 5. Gaspard Lemaire, vous êtes enseignant en éthique et vous avez mené tout un travail, vous le menez encore d'ailleurs, de réflexion autour d'un nouveau terme d'atrocité climatique pour parler de la violence qui est à l'œuvre autour du climat. L'État français qui a déjà été condamné deux fois pour inaction climatique, première condamnation celle de l'affaire du siècle, la seconde avec le recours de la commune de Grande-Synthe. Est-ce que ce terme d'atrocité climatique pourrait donner de nouvelles armes juridiques, par exemple à des citoyens qui veulent porter plainte?
Alors, dans l'immédiat, ce ne sera pas le cas sur le plan strictement juridique, puisque le concept en est encore au stade théorique, mais sa vocation, à terme, est évidemment de devenir un concept juridique qui pourrait être reconnu au niveau international dans le cadre d'une convention sur la prévention de l'atrocité climatique, comme ça a été le cas avec la convention sur le génocide en 1948. Évidemment, cet horizon, il est très lointain aujourd'hui, puisque dans le cas du génocide, donc, les Alliés avaient gagné la guerre et ils se sont servis de la notion de génocide pour jeter l'opprobre sur l'ancien régime nazi. Ça a été pareil avec le crime contre l'humanité. Donc il y avait un contexte géopolitique particulier. Aujourd'hui, en 2025, sur la scène internationale, les puissances dominantes sont aussi des puissances fossiles, des puissances qui potentiellement pourraient être considérées comme responsables de l'atrocité climatique. Et donc, elles ne vont pas, dans l'immédiat, reconnaître le concept et en faire un outil qui permettrait de les condamner. Dans le même temps, on peut envisager des formes de reconnaissance plus souples via des déclarations non contraignantes au niveau local, au niveau régional, au niveau national, voire au niveau international, comme ça a pu être le cas avec l'écocide.
C'est-à-dire, quand vous dites non contraignante, à quoi vous faites allusion exactement ?
Eh bien, par exemple, le Parlement européen a adopté une résolution, j'ai plus la date exacte, c'était au début des années 2020, pour promouvoir l'adoption du concept d'écocide au niveau du droit international. Donc le Parlement se positionne et il dit, voilà, il est souhaitable que cette notion devienne une notion de droit international. Ça, c'est pas contraignant, mais ça permet de faire avancer les débats à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça indique que l'Europe a pris position, l'Union européenne a pris position, et si le concept est discuté, elle apportera son soutien. C'est comme ça que ça se construit, les coalitions, ça se construit petit à petit par des déclarations, et ensuite les actions sont mises en œuvre.
Alors ce terme, est-ce que vous l'avez confronté d'ailleurs à des scientifiques, à des juristes? Comment est-ce que vous essayez de le tester pour voir si la greffe prend ou pas? Vous pouvez nous expliquer aussi votre démarche et l'expérience que vous menez avec cette atrocité climatique?
Oui, alors en tant que jeune chercheur, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux colloques, ça fait partie de mon métier. Les premières années, ça fait à peu près 4 ans que je réfléchis à cette question d'atrocité climatique. Les premières années, l'enthousiasme était tout à fait modéré et le concept suscitait plutôt l'indifférence. Mmh. Plus récemment, voilà, peut-être parce que la théorie a mûri, j'ai pu échanger avec beaucoup de juristes, par exemple à la Société européenne de droit international, qui ont estimé que cette notion pouvait contribuer au débat en cours sur les questions de climat. J'ai échangé aussi avec des physiciens, avec des politologues, qui d'ailleurs à chaque fois m'ont permis d'alimenter cette notion, qui couvre une réalité quand même extrêmement vaste, et qui est donc assez difficile à construire. Et la notion, je dirais, est de mieux en mieux reçue. Voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des chercheurs anglais ces derniers mois, qui soutenaient cette initiative.
Et les Français, est-ce que vous en avez rencontré? Parce que vous citez les Allemands et les Anglais en France. Est-ce que vous avez croisé des climatologues, par exemple, ou même des physiciens du climat?
Alors, j'ai pas encore échangé avec des physiciens ou des climatologues français. Je le ferai volontiers dans les mois à venir. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais pour l'instant, en France, cette notion a trouvé un écho plutôt modéré au sein de la communauté académique.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Alors, il y a un message intéressant de Marie-Hélène qui nous dit ceci. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aujourd'hui à vouloir provoquer une prise de conscience sur l'urgence climatique en travaillant sur les mots, et notamment donc ce terme d'atrocité climatique, quand on voit, dit Marie-Hélène, la perte de sens des mots à l'œuvre aujourd'hui?
C'est une très bonne question. Effectivement, on a l'impression d'être perdu dans le langage, peut-être, parce qu'il y a tellement de phénomènes compliqués qui arrivent en même temps. C'est très, très difficile de mettre des mots sur les choses. Maintenant, quand on a fait ce constat, je pense qu'il n'y a pas du tout de contradiction à essayer de résoudre le problème. Bien au contraire. On a un problème de sens, on a un problème qu'on pourrait appeler herméneutique en langage technique, c'est un problème d'interprétation. Toutes les civilisations ont toujours interprété les questions de climat, d'une manière ou d'une autre. Il y a des théories grecques, il y a des théories arabes, il y a toutes sortes de théories sur le climat. Mais aujourd'hui, voilà, on rentre dans un nouveau régime climatique. Peut-être qu'aussi, il faut envisager de nouvelles théories du climat, de nouvelles herméneutiques du climat.
On va écouter le message vocal de Gilles qui nous a rejoint sur l'application Radio France.
Bonjour la Terre au carré. On a parlé d'écocide, d'urgence climatique, de vandalisme écologique. Jacques Chirac a parlé de la maison qui brûle. Ce concept d'atrocité climatique ne finira-t-il pas par tomber, comme tous les autres, dans l'oreille d'un sourd? Merci.
Gaspard Lemaire, pour répondre à Gilles.
Je crois qu'on est au commencement, justement, d'une démarche d'interprétation. Effectivement, on cherche le mot depuis 20 ans, 30 ans, voilà, depuis qu'on a découvert, en fait, en tout cas à titre collectif, l'existence de ce phénomène qu'on appelle le dérèglement du climat, et qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre cette quête de sens. Je ne crois pas que toutes ces questions, notre maison brûle, nous regardons ailleurs, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. Effectivement, les émissions continuent à augmenter. On émet 75% de plus de CO2 en 2025 qu'en 1992, date de ratification de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc sur le plan des flux physiques, c'est pas un succès. Mais sur le plan de la conscience collective, je crois qu'on a quand même fait beaucoup de progrès sur nos représentations vis-à-vis du climat. C'est tout à fait insuffisant, mais ces progrès sont réels.
Doane nous dit, est-ce qu'on pourrait pas parler d'apocalypse climatique ? Alors on voit qu'il y a une surenchère aussi dans les mots. Est-ce que c'est pas là aussi un peu vain de vouloir trouver le mot le plus puissant et toujours dépasser le précédent ?
C'est pas une quête du mot le plus puissant, c'est une quête du mot le plus précis. Une atrocité de masse, c'est des violences de grande ampleur qui sont systématiques, qui sont infligées en connaissance de cause à des populations civiles. C'est le cas avec le climat, c'est global, donc c'est de grande ampleur. Les émissions de gaz à effet de serre, elles sont systématiques, elles résultent d'une certaine structure économique. Elles sont infligées en connaissance de cause, au moins depuis la publication du premier rapport du GIEC. Donc c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas une apocalypse non plus, justement. Le but, c'est d'éviter le discours de l'effondrement. Une atrocité de masse, c'est pas la fin du monde. C'est autre chose, c'est plus précis sur le plan descriptif.
On va écouter le message de Charlotte.
Moi, en tant que citoyenne, les atrocités climatiques, je pense tous les jours, que ce soit pour les êtres humains, pour les animaux. Je vous remercie pour cette émission, et je me demande bien comment on peut se rassembler. En tout cas, moi, j'en souffre tous les jours, moralement et mentalement, et ça m'intéresse de savoir comment me rassembler avec d'autres.
Merci Charlotte. Au-delà des mots, donc, l'action, c'est un appel à l'action qu'elle fait dans ce message.
Effectivement, cette souffrance, je la comprends et je la partage. C'est effectivement très, très difficile, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, d'assumer cette situation, de faire face à l'intensité des violences, qui sont des violences évitables. Et c'est vrai que l'action est essentielle à un double titre. Je pense qu'en tant qu'individu, si on s'engage dans l'action, ça peut-être aller un petit peu mieux. On se sent moins démuni. Et c'est peut-être aussi une responsabilité morale de ne pas rester les bras ballants quand la maison brûle, justement. Ensuite, maintenant, sur les modalités d'action concrètes, on est en France, il y a déjà énormément d'initiatives qui sont menées. Il y a toutes formes d'actions qui peuvent être mises en place. Ça peut être des actions de plaidoyer, des actions de désobéissance civile, des actions d'éducation populaire. Il y a tout un tas d'initiatives et chacun peut choisir la manière qui lui convient le mieux d'agir aujourd'hui.
On le testera auprès de Laurence Toubiana, qui sera notre invitée la semaine prochaine. On verra comment elle, en tant qu'économiste et grande observatrice aussi et actrice de la question climatique, elle reçoit ce terme. Je termine avec ce message de Jacqueline. Les climato-gauchos sont à fond dans les exagérations, à l'appui de la science, bien sûr, qui a bon dos. C'est plus que de la fake news, c'est de la pure propagande écolo. Voilà, je voulais terminer par ce message. Merci beaucoup, Gaspard Lemaire, d'être venu au micro de la Terre au Carré.